France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous voilà ensemble pour 1h30 d'actualité culturelle. Mais autour de cette table, tout commence avec le bel exercice de la critique sur nos tablettes en ce vendredi. Deux expositions qui mettent la peinture à l'honneur, une femme qui mérite qu'on l'appelle par son nom et un homme bien accompagné. Artemisia, héroïne de l'art, c'est au musée Jacquemart-André jusqu'au 3 août prochain. Et tous légers, il faut y entendre le jeu de mots, au musée du Luxembourg jusqu'au 20 juillet. Et pour nous accompagner dans les salles de ces expositions, deux critiques affûtées aujourd'hui. Corinne Rondeau, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes maître de conférence en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art. Et Stéphane Coréard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes galeriste et éditorialiste au Journal des Arts. Bienvenue à tous les deux. Même si le titre de cette exposition ne le précise pas, l'héroïne de l'art mise en valeur au musée Jacquemart-André, c'est Artemisia Gentileschi, artiste peintre romaine du XVIIe siècle, reconnue notamment pour ses clairs obscurs et son style caravagesque. De son vivant, elle a connu un succès international et elle a pu, fait rare, vivre de sa peinture. Grande portraitiste, grande technicienne, elle a reçu des commandes de toutes les cours d'Europe. Et puis il y a la vie d'Artemisia Gentileschi, violée à 17 ans, elle a dénoncé son agresseur à ses risques et périls. Et notre regard contemporain, sur ses personnages féminins notamment, se charge aujourd'hui de son courage et de son désir d'émancipation. L'exposition nous propose d'explorer l'œuvre et la vie de cette peintre à travers une quarantaine de toiles, dont certaines très peu exposées. Alors Corinne Rondeau, pour commencer en quelques mots, vos premières impressions sur cette exposition ?
Eh bien, c'est vraiment une découverte parce que, à part celle de Florence qui n'est pas à Jacquemart-André que j'avais vue, le Judith et Holoferne, c'est vraiment un grand peintre. C'est indéniable. L'exposition a une fausse chronologie, puisqu'il y a vraiment des tableaux des années 20 qu'on peut retrouver à la fin de l'exposition. Mais le parcours, effectivement, de cette femme est parfaitement représentatif, indépendamment du monde qu'il y a. Et c'est très difficile de le voir, même si les tableaux sont grands. Ça nous sauve un petit peu pour s'approcher de la peinture.
Même question, Stéphane. Êtes-vous séduit par cette exposition ?
Oui, absolument. Alors, vous l'avez dit, Marie, c'est une œuvre qui a été un peu oubliée pendant plusieurs siècles, et c'est au XXe siècle que sa réputation s'est réaffirmée et n'a cessé de grandir jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui une figure quasiment légendaire de l'entrille patriarcat, je dirais, puisque vous l'avez dit, on pourrait la situer quelque part entre Niki de Saint-Phalle pour le viol originel et puis Rosa Bonheur pour le dépassement du père, puisque son père a elle aussi été peintre. Ça fait 10 ans que Paris lui avait pas consacré d'exposition, donc il était temps d'y revenir. J'ai trouvé celle-là très très convaincante. Effectivement, malgré quelques problèmes toujours d'attribution ou de tableaux peut-être un peu douteux ou plus ou moins repeints, les spécialistes apparemment discutent toujours le sujet.
Alors Corinne, peut-être pour commencer, comment elle se structure cette exposition et quelle histoire est racontée aux visiteurs quand on arrive à Jacquemart-André ?
Eh bien, d'abord, on commence avec un portrait de Simon Vouet qui dit à quel point elle était reconnue dans le monde de romain, en l'occurrence à l'époque où elle revient à Rome, puisque c'est Rome, puis elle va à Florence, puis elle revient à Rome, puis elle part à Naples, puis elle va retrouver son père en Angleterre, qui est devenu lui le peintre du roi Charles Ier d'Angleterre, puis elle va revenir à Naples où elle va disparaître et sans doute est-elle emportée par l'épidémie de peste. Et donc l'exposition commence avec ce portrait d'une femme au portrait très affirmé, avec une lumière très très blanche. Donc c'est très tranchant, il y a quelqu'un là, par ce portrait de Simon Vouet. Et puis c'est la première salle, évidemment, père-fille, d'une certaine manière, qui est représentée. Où se trouve la fille et où se trouve le père ? On voit bien qu'elle est très précoce, elle a une qualité picturale assez étonnante, même si on pense qu'il y a quelque chose d'autre main, le père qui vient poser quelques organisations, mais elle a une invention, ça on le voit partout dans toute sa peinture, dès le début, elle a une inventivité dans la peinture, et je trouve que autant son père a une dimension plus allégorique ou lyrique de sa peinture, toujours avec une influence caravagesque, puisque le père était proche de Caravage, et puis se sont un petit peu éloignés l'un de l'autre, et elle a une manière d'être à la fois caravagesque sans être caravagesque. J'ai trouvé ça d'une subtilité assez remarquable, et dans dans cette première salle, il y a effectivement un tableau qui pourrait prêter à confusion sur l'attribution Horatio, le père, ou Artemisia. C'est un tableau de 1640, et on peut penser qu'il y a là la touche d'Artemisia, plus le père, de mon point de vue. Mais ça, c'est encore toujours discuté. Et puis, une fois que vous avez cette manière, cette confrontation qui démontre très tôt la qualité picturale, la maîtrise picturale d'Artemisia, on va vers des sujets qui sont beaucoup plus iconographiques. Judith et sa servante, par exemple. Il y a un Goliath aussi.
Donc, des sujets bibliques.
Des sujets bibliques. Et puis, il y a aussi l'art du portrait. Et puis, vous avez aussi, entre l'art du portrait qu'on trouve dans une salle, il y a à la fois des portraits féminins, un portrait de femme comme ça, avec un immense collier de perles dans lequel elle met son pouce comme ça, on a l'impression, elle regarde sur le côté, on a l'impression qu'elle va tout faire péter. Il y a une affirmation. Même les portraits d'hommes qu'elle fait en pied, c'est des portraits affirmés. Donc, grande portraitiste, grande invention. Il y a un petit Danaé qui est d'une somptuosité, mais remarquable, à côté d'un Caravage, qu'elle éteint, malgré le format du Caravage, malgré le couronnement des, c'est un couronnement d'épines, et il y a celui de son père à côté, mais ce petit Danaé est éteint absolument tout, tellement il est puissant. Et puis vous avez ensuite la manière dont elle a été parfaitement introduite dans les milieux picturaux d'hommes, comme à la fois artiste mais aussi poétesse, dont on va dresser son portrait au crayon. J'ai oublié tout de suite le nom de l'artiste, mais Stéphane va le dire avec beaucoup de brio. Et elle est représentée avec une moustache et elle tient un objet à la main. Alors on ne sait pas si une pomme d'amour, un miroir ou un hochet d'enfant, mais là ça dit aussi quelque chose. Il y a Claude Lorrain à côté, donc elle est vraiment tout à fait introduite dans ce milieu. Et puis la fin, qui est plutôt des thématiques Marie-Madeleine et surtout Cléopâtre. Il y a beaucoup de le moment où Cléopâtre se suicide. Et donc on a vraiment un mouvement entre le début d'Artemisia, ce viol, qui est aussi une manière de faire apparaître toute la dimension dramatique de sa peinture et sa violence, ça c'est certain, et cette manière dont elle maîtrise jusqu'au bout le corps féminin, parce que le suicide, c'est quand même le contrôle de sa propre vie, même si l'histoire, c'est Marc Aurèle, elle se suicide parce que Marc Aurèle est mort.
Alors, on entend dans les propos de Corinne que ce sont beaucoup des figures féminines qu'elle a peint, Artemisia. J'entends Cléopâtre, Judith. Est-ce qu'il y a une façon de portraiturer la femme particulière parce que c'est fait par une femme? Est-ce que vous avez senti ça, Stéphane?
Alors écoutez, sans doute, en tout cas c'est vrai que ce qui est frappant dans l'exposition, c'est qu'en dehors du fait qu'elle est sans doute supérieure à son père, ça c'est évident, hein, il y a effectivement des confrontations. D'ailleurs c'est moins le chapitrage de l'exposition qui m'a intéressé, les salles sont petites, il y a peu de tableaux par salle, donc c'est plutôt la confrontation qu'il y a parfois sur les mêmes murs ou dans la même salle, de versions de la même scène peinte par le père, puis en général peinte par la fille, et où sa supériorité est éclatante. Par exemple effectivement Judith et sa servante, là où le père est masculin, très démonstratif, il envoie tout, il y a la tête de Leferne qui est au premier plan, qui prend toute la lumière, etc. Elle, au contraire, donc, comme dans le tableau d'ailleurs du père, Judith et sa servante regardent dans le hors-champ, hein, dans l'angle supérieur droit du tableau, et puis on voit quasiment pas la tête de Leferne qui est fondue, elle est légèrement vert-amande, comme ça, fondue dans un panier qui lui-même est d'un ocre doux, et donc en fait il y a une espèce de deuxième effet retard où, après avoir vu Judith, la servante, dans la lumière, etc., le regard perçoit enfin la tête de Leferne et on est totalement saisi dans le tableau. Ça, c'est vraiment du grand art. Il y a la même chose avec David et Goliath. Pareil, chez le père, la tête de Goliath au centre du tableau, éclairée comme avec des projecteurs de cinéma. Et puis, au contraire, chez Artemisia, elle est verdâtre, elle est tapie dans l'ombre. Elle pourrait n'être que supérieure à son père, mais ce qui effectivement... Pour être plus précis par rapport à votre question, Marie, parce qu'il faut quand même y répondre.
S'il vous plaît.
Elle est plus que ça, elle est effectivement singulière. Alors, le viol, effectivement, qu'elle subit à l'âge de 17 ans par un compagnon de son père, un vieux peintre, est certainement fondateur. Ce qui est stupéfiant dans l'exposition, c'est qu'il y a un tableau qui est prémonitoire, c'est Suzanne et les vieillards, qu'elle peint un an avant le viol. Alors, elle fait
preuve,
effectivement,
d'une
précocité incroyable, parce que ce tableau est absolument sublime, et vous avez cette jeune femme qui est au premier plan, dont les extrémités sont rouges, comme ça aussi bien le pied que la joue. Et puis il y a ces deux hommes qui sont séparés d'elle par une rambarde en pierre, qui eux-mêmes sont empourprés comme ça, comme une seule masse menaçante. Et puis s'échappe de cette jeune fille, un peu comme une âme, une colombe blanche. On a l'impression, en fait, c'est le col d'un des deux hommes blancs qui tranche sur ses vêtements foncés. Et c'est une espèce d'allégorie de la perte de l'innocence qui est absolument stupéfiante. Effectivement, il y a l'affirmation dans son travail d'une force spécifiquement féminine, on pourrait dire, par l'héroïsation de sa propre figure. Hein. Il y a beaucoup d'autoportraits, beaucoup des femmes ont ces traits, et ce sont effectivement des portraits extrêmement affirmés. Effectivement, on l'a dit, on l'a beaucoup glosé là-dessus, parce que c'est aussi beaucoup comme ça que des historiennes de l'art, notamment femmes, se sont réappropriées la figure d'Artemisia au XXe siècle. Elle a effectivement subi ce viol, mais pas... Elle n'en est pas demeurée la victime, elle a intenté un procès à son violeur, qu'elle a failli perdre parce qu'il a utilisé des moyens complètement déloyaux, notamment des faux témoignages. Elle a réussi finalement à le faire condamner. Mais je voudrais juste vous citer un extrait d'une lettre qui est reprise dans un ouvrage paru en 84 aux éditions des Femmes, qui était d'ailleurs coordonnée par Anne-Marie Sozzo-Boetti, grande historienne de l'art italienne, qui était la femme d'Alighiero Boetti, grand artiste italien, et préfacée par Roland Barthes, parce que dans le livre, ça reprend les minutes du procès et les lettres d'Artemisia, et voilà ce qu'elle écrit sur son viol, à propos de son violeur. Il ferma la chambre à clé, et après l'avoir fermée, il me jeta sur le bord du lit en me frappant sur la poitrine avec une main, me mit à genoux entre les cuisses pour que je ne puisse pas les serrer, me releva les vêtements qu'il eut beaucoup de mal à m'enlever, me mit une main à la gorge et un mouchoir dans la bouche pour que je ne crie pas, et il me lâcha les mains qu'il me tenait avant avec l'autre main, ayant d'abord mis les deux genoux entre mes jambes et appuyant son membre sur mon sexe, il commença à pousser et le mit dedans, je lui griffais le visage et lui tirais les cheveux, et avant qu'il le mette encore dedans, je lui écrasais le membre en lui arrachant un morceau de chair. On croirait dans un tableau d'Artemisia, parce que effectivement, on peut pas après regarder les tableaux de Judith et Holofernes, par exemple, mais aussi des sujets moins courants, hein, comme Esther et Assuérus, ou Yael et Sisera, et même Tarquin et Lucrèce, parce qu'effectivement, si la victime du viol se suicide en raison du déshonneur qui la frappe, dans ce dernier cas, l'agresseur est lui-même condamné au bannissement.
Mais alors, on peut pas re-regarder ces peintures sans penser au viol, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une relecture psychologisante? Parce que quand même, ce qu'elle peint, ce sont des scènes... mythologique ou biblique, Corinne?
Non, de toute façon, les peintres peignent ce qu'ils sont. Hein. Donc, Stéphane disait qu'il y a quelque chose d'une anticipation avec Suzanne et les vieillards. Peut-être qu'il y a ça. Elle est déjà dans un milieu d'hommes avec son père, ses hommes qui tournent autour, etc. Donc, puisque le violeur est dans la proximité immédiate du père, je ne crois pas qu'on puisse psychologisée. Par contre, ce qu'on peut dire de cette peinture, c'est que non seulement elle est dans une maîtrise totale de sa technique, qu'elle a une puissance du corps, parce que, par exemple, il y a quelque chose des mains chez Artemisia qui est assez sidérant. Elle a une manière de par exemple, il y a une copie de Judith et Holofernes, mais la copie montre, et bon, on peut aller revoir le tableau évidemment d'Artemisia, mais c'est assez bien peint, donc on peut le voir un petit peu dans l'exposition. Il y a une manière de serrer la main, et elle a une manière toujours d'avoir des mains assurées. Quand, par exemple, vous avez un personnage qui s'évanouit comme ça, et vous avez des mains qui la portent. Il y a une sensualité absolue de sa peinture. Donc déjà, cette sensualité, elle apporte quelque chose d'une dimension corporelle à sa peinture. Elle a quelque chose presque de vénitien et d'une chair à la vénitienne qu'elle pratique avec onctuosité, mais sans avoir de débord, parce qu'elle est dans un drame, quelque chose d'une expression dramatique à la Caravage, c'est-à-dire il y a une dureté quand même, il y a toujours ces éclairages latéraux qui ressemblent à du Caravage, et en même temps, elle éclaircit. Donc il n'y a pas de psychologisation. Par contre, elle veut faire voir autrement quelque chose du corps qu'il y a dans les scènes bibliques. Et lorsque Stéphane, par exemple, parle du père et de la fille avec le même sujet, Judith, vous parlez de la tête, moi ce qui m'a sidéré, c'est que la servante, le père, la met de dos. Le visage de Judith est dans une bouffée par de l'obscurité, alors que la lumière, et il y a une main de Judith sur l'épaule de la servante. Et
là, on sent dans la version d'Artemisia.
Dans la version d'Artemisia. Et là, on voit qu'il y a quelque chose d'un corps qui se supporte, des corps qui sont dans des rapports. Alors, ils peuvent être conflictuels en rapport au sujet. Évidemment, quand vous regardez la Judith et Holofernes d'Artemisia, ça pisse le sang. Il y a de la giclure que n'a pas la copie, par exemple. Il y a un rapport au drapé, au lit, quand je vous entends citer la phrase de la lettre d'Artemisia, et que quand, j'entends ce lit qu'elle est jeté, il y a une manière de faire le drapé, le lit, le blanc et le rouge, par exemple, il y a quelque chose d'une corporéité qui va jusqu'à une expression de sa peinture. Donc c'est quelqu'un qui affirme son travail parce qu'elle est parfaitement consciente de la place des femmes dans l'art. Et ça aussi, dans les lettres, ça se lit.
Dernière question, Stéphane, qu'est-ce qu'il y a de Caravage chez elle ? On a cité Caravage plusieurs fois. Où est-ce que vous retrouvez Caravage dans sa peinture ?
Caravage, typiquement, évidemment, dans les éclairages, dans les compositions, dans quelque chose, effectivement, d'assez dramatique. Mais je suis d'accord avec Corinne, ça n'est pas, pour moi, du tout une épigone du Caravage. Et pour aller rebondir sur ce que disait Corinne, effectivement, au-delà de l'affirmation de cette force féminine, parce qu'il y a quand même des femmes qui tuent des hommes partout dans ces tableaux, quand elle lui enfonce le clou à ce général dans la tête, c'est quand même un tableau extrêmement
saisissant. Il est terrible, ce tableau.
Mais il y a aussi la revendication d'une puissance, du désir féminin. Effectivement, Danaé, par exemple, c'est stupéfiant et c'est très contemporain parce que la pluie d'or que Jupiter fait pleuvoir sur elle pour la mettre enceinte,
la féconder,
ce n'est pas une pluie d'or comme de la pluie, comme c'est souvent le cas dans les tableaux, ce sont carrément des pièces d'or qui sont jetées et la servante est là et elle se fait une bâche avec sa robe pour recueillir de l'argent, alors que Danaé, elle est complètement offerte et il y a des pièces qui s'accumulent dans son entrejambe, c'est absolument incroyable. Ce tableau est d'une puissance. Il y a aussi une Vénus endormie qui est en demi-extase, qui est vraiment dans une... Et c'est un auto-érotisme, en fait. C'est ça qui est très aussi
contemporain. Parce qu'il y a beaucoup de nus féminins dans ce que peint Artemisia.
Absolument, et des nus absolument magnifiques. Et elle s'est elle-même représentée nue. Malheureusement, un tableau qui a été caviardé assez rapidement parce que justement, c'était trop indécent. Et donc, c'est pas du tout quelqu'un qui reste dans un statut de victime. C'est quelqu'un qui, malgré sa biographie, justement, assume la puissance de son propre désir. Et ça, c'est sublime et très contemporain.
Sublime et très contemporain, ça donne très envie d'aller voir Artemisia, héroïne de l'art, c'est au musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août.